Rencontre spirituelle aujourd'hui en ce 11 novembre. C'est non seulement la fête de l'armistice, c'est-à-dire et les larmes et la joie de la paix qui a été signée en 1918 après cette guerre qui dura plus de 4 ans. C'est la fête de Saint-Martin de Tours. C'est pendant très longtemps le plus grand saint de nos ancêtres français. Pour nous, Québécois, Français. Avant d'être baptisé, Saint-Martin, qui était un soldat hongrois, oui, c'est un Hongrois, avait partagé, comme tout le monde le sait, son manteau avec un pauvre à Amiens. Amiens, c'est dans le nord de la France. Et devenu chrétien, devenu catholique, il n'a pas pu rester insensible à la pauvreté terrible des paysans de cette région, particulièrement au sud de la Loire, dans la région de Tours où il a abouti. Des paysans à qui personne n'avait encore parlé de Jésus-Christ, un peu comme certains de nos jeunes aujourd'hui. Et alors Saint-Martin a travaillé à l'évangélisation de la partie de la France, qui est au sud de la Loire et dans la région de Poitiers aussi. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-Martin est connu comme évêque de Tours. Tours, d'où viennent beaucoup de nos ancêtres et des gens les plus merveilleux qui ont fondé Ville-Marie et fondé notre pays au XVIIe siècle. Le 11 novembre, savez-vous qu'en France, c'est encore jusqu'à un certain point une fête nationale, la fête de Saint-Martin? Mais on peut se demander si les Français songent encore à saluer d'un même cœur, et avec autant d'intérêt peut-être, l'armistice de la fin de cette guerre 14-18, et leur vieux Saint-Martin, qui est aussi le nôtre par héritage, si on peut dire. Ce vieux saint gallo-romain du 4e siècle, ce n'est pas d'aujourd'hui, qui a tant travaillé pour christianiser ces régions d'où une grande partie d'entre nous venons. Ce Saint-Martin qui a répandu la civilisation spirituelle, celle qui nous échappe actuellement, cette civilisation qui fait vraiment notre peuple au fond, notre peuple du Québec comme celui de la France. Saint-Martin aurait toujours droit à ce culte officiel qu'il a connu autrefois. Parce que sa vie de moine, sa vie d'évêque, sa vie comme modèle d'une austérité ascétique courageuse, et surtout comme modèle de zèle missionnaire, d'apôtre, sa vie de modèle aussi comme contemplatif dans la retraite de ce monastère de Marmoutier, tout près de Tours, où il y a de grandes ruines de ce monastère. J'ai tout visité ça, c'est immense. C'était un modèle d'apostolat très actif. Mais tout ça, me semble, ça lui mérite bien une gloire qui devrait durer toujours. Ça devrait nous permettre à nous d'être reconnaissants, à nous, Québécois, car nous sommes, comme les Français, je vous le répète, héritiers de ce grand saint. Comment ça se fait qu'on connaisse Saint-Martin qui a vécu il y a si longtemps? C'est surtout par son contemporain Sulpice Sévère, et aussi par Grégoire de Tours, Saint-Grégoire de Tours, qui lui est venu 2 siècles plus tard. Il y a dans l'ouvrage de Sulpice Sévère certaines difficultés chronologiques. Il y a aussi son genre littéraire, c'est un peu particulier. C'est une vie, comme on les écrivait dans ce temps-là, on n'avait pas l'esprit rationnel, je dis pas rationaliste, mais bien rationnel, objectif, comme on peut l'avoir quand on analyse les miracles à Lourdes aujourd'hui, et qu'on écrit des vies de saints de plus en plus, c'est objectif. Or, Sulpice Sévère, lui, il montre que ce Saint-Martin est un thaumaturge qui est accueilli volontiers partout, au point que certains moines de son monastère de Marmoutier, là, à 3 kilomètres de Tours, taxaient Sulpice Sévère d'exagération. Savetire republié la vie de Saint-Martin de Sulpice Sévère assez récemment dans la collection Foi Vivante, que vous connaissez tous, j'espère, la collection Foi Vivante. Ce sont de petits livres qui se vendent une quinzaine de dollars, ou même pas 15. 92 pages pour la vie de Saint-Martin de Sulpice Sévère. Sulpice Sévère, lui, est né en 360, voyez-vous, puis il a connu Saint-Martin pendant quelques années, avant la mort de Saint-Martin. Et cette biographie qu'il a écrite par la suite demeure toujours le fondement nécessaire pour connaître la vie d'un saint qui est, comme je vous l'ai dit, amplifié par la légende. Hein? Et ça nous ramène aux sources. Saint-Martin, je vous ai dit, est né en Hongrie, à Szabaria, vers 317. Le fameux édit de Milan est voté depuis 4 ans. C'est le fruit, cet édit de Milan, de la rencontre entre l'empereur d'Occident, Constantin, et l'empereur d'Orient, Licinius. Et cet édit, ce contrat, si vous préférez, cette proclamation accorde la liberté de religion à tous les citoyens de l'Empire, cet empire immense. C'est la fin des persécutions des chrétiens. C'est le début du droit à célébrer publiquement le culte. Cependant, si le christianisme a conquis une partie des populations urbaines, on sait que les paysans, je vous l'ai dit, resteraient attachés à leurs idoles, resteraient attachés à des cérémonies païennes, qui demeurent d'ailleurs fort nombreuses. Ils avaient, à leur époque, leurs idoles, comme bien des gens en ont aujourd'hui, et bien des prêtresses païennes comme des Jojo Savard. Et le jeune Martin est donc élevé à Pavie, dans l'Italie du Nord, où il y a une nouvelle garnison. Son père est là, il sert l'Empire comme soldat, puis finalement comme tribun militaire. Et bien que ses parents ne soient païens, bien à l'âge de 10 ans, Martin demande à être chrétien. Il aspire, dès l'âge de 12 ans, à vivre au désert. Oui, en imitant les ascètes orientaux dont je vous ai souvent parlé, qui depuis la fin du 3e siècle donnent un exemple retentissant d'une vie de retraite, de pénitence, vous savez, dans les solitudes des déserts d'Égypte. Mais fils de soldat, Martin est obligé par la loi à embrasser la carrière militaire comme son père. Alors, il est enrôlé de force à l'âge de 15 ans, puis il est présenté par Sulpice Sévère, son biographe, comme soldat malgré lui. Et je cite Sulpice Sévère, « L'esprit toujours hanté par les cellules de moines ou par l'Église, méditant encore enfant le projet qu'il devait réaliser plus tard en se vouant à Dieu. » Il réussit, malgré l'incompatibilité de la profession des armes avec la vie chrétienne, à concilier ses nouveaux devoirs, puis aussi ses aspirations profondes. Il s'applique dans ses rapports, aussi bien avec ses compagnons d'armes qu'avec les malheureux qu'il rencontre, les pauvres, à suivre les préceptes de l'Évangile. L'attention, la charité, la douceur, la patience de Martin gagnent très vite le respect puis l'affection de tous. Martin tient garnison à Amiens. C'est au nord de Paris, à 125 kilomètres. Presque en ligne directe au nord. Amiens, il y a une belle cathédrale. Et Martin fait des rondes pour inspecter la région. Il désire pas tant faire régner l'ordre et utiliser son autorité, là, qu'aider les pauvres, les plus démunis. Mais il n'a plus d'argent. Il n'hésite pas à se dépouiller de ses vêtements. C'est ainsi qu'un jour d'hiver, tout le monde connaît l'histoire, il rencontre un pauvre homme qui est transi de froid, comme on en rencontre dans la rue, nous, à Montréal et un peu partout. Et l'hiver est particulièrement rigoureux. Et Martin, on pourrait dire, d'un peu dépouillé de tout ce qu'il avait, parce qu'il avait déjà croisé plusieurs malheureux à qui il avait fait l'aumône, alors il n'hésite pas quand même à ôter sa chlamyde. C'est comme ça qu'on appelle ça, la chlamyde, c'est-à-dire son manteau militaire. Puis, il le fend, vous vous souvenez, d'un coup de glaive. Et le mendiant, diminu, est tout surpris. Martin lui en donne la moitié. Au cours de la nuit suivante, Jésus lui apparaît vêtu de ce même pan de manteau dont il a couvert le mendiant, et lui dit, « Martin, Martin, encore catéchumène, Martin m'a vêtu de ce manteau. » Et Martin, alors âgé de 18 ans, s'empresse de se faire baptiser. Il doit continuer l'armée jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est fixé par la règle, par le règlement. Mais désormais, il refuse de combattre pour ne pas avoir à verser du sang. Les barbares avaient envahi la Gaule, et certainement pour encourager les soldats, mais l'empereur leur faisait distribuer des donavitum, c'est-à-dire des gratifications. Et Martin n'hésite pas à s'opposer à l'empereur Julien, en disant « Jusqu'ici, c'est pour toi que j'ai porté les armes. Souffre que ce soit désormais pour Dieu. Je suis soldat du Christ. Combattre ne m'est pas permis. » Alors l'empereur accepte mal cette déclaration. Il lui semblait ridicule de laisser un soldat quitter l'armée au moment où le pays était en danger. Alors il accuse Martin de lâcheté face au danger à affronter. Et Martin rétorque « Puisque tu ne crois pas à la sincérité de ma religion, puisque tu me prends pour un lâche, fais-moi marcher demain seul et sans armes contre l'armée ennemie, au nom de Jésus, protégé par le signe de la croix, j'irai sans crainte. » Dieu ne voulait pas la mort de Martin, et les Francs se rendent, les soldats francs se rendent, le combat n'a pas lieu, et Martin quitte l'armée. Dès sa libération, Martin veut connaître Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, qui est chef de file en Gaule de la résistance à l'hérésie arienne. L'hérésie arienne, c'est cette hérésie qui nie l'unité des trois personnes divines. Et Hilaire comprend tout de suite combien leurs âmes sont faites pour s'entendre et rendre gloire à Dieu. Et alors il veut attacher Martin à son église en lui conférant le diaconat, mais par humilité, l'ancien soldat hongrois accepte seulement d'être fait exorciste. Mais cependant, Martin n'a pas longtemps l'occasion d'exercer son ministère et avertit en songe de retourner dans sa patrie afin de convertir ses parents. Il quitte Hilaire, qui s'apprête lui aussi à partir pour l'Asie sur un ordre de l'empereur. Mais Martin doit affronter les périls d'un long voyage et est attaqué dans les Alpes par des brigands. Il manifeste une telle confiance dans le secours de Dieu qu'il convertit l'un d'entre eux. Et arrivé dans les régions centrales de l'Empire, il réussit à délivrer sa mère de l'erreur du paganisme, mais il est très vite en butte au mauvais traitement infligé par les évêques de la région qui sont gagnés à l'arianisme. Et de nombreux païens se convertissent autour de lui, si bien qu'il est vite considéré comme un ennemi à faire disparaître. Saint-Martin regagne alors l'Italie, et après avoir très rapidement été expulsé d'un premier ermitage à Milan, il se retire en compagnie d'un prêtre, d'un saint prêtre, dans une île déserte au large du golfe de Gênes. Gênes, comme vous savez, c'est dans le nord de l'Italie, sur la Méditerranée, près de la France. Il y vit en solitude pendant 4 ans. Il y veut imiter les ascètes orientaux qui se nourrissent d'herbes et de racines. Il s'empoisonne d'ailleurs avec de l'hellebore. Il n'échappe à la mort que par miracle. En 360, à 43 ans, il apprend que Saint-Hilaire revient d'exil. Alors il retourne à Poitiers, en France, et peut alors satisfaire sa vocation longtemps contrariée, en installant un ermitage dans la vallée de Klein, à 8 kilomètres de Ligugé. Vous venez d'entendre d'ailleurs des chants des moines de Ligugé. Des disciples viennent bientôt le rejoindre. Une petite communauté se fonde autour de lui. Il forme ainsi la première communauté monastique en Gaule. Bien oui, Ligugé, c'est le plus vieux monastère de France. Cette communauté vit dans le rythme qu'elle établit par la prière en commun, la méditation, puis le travail manuel, comme dans tous les vrais monastères contemplatifs. Et durant les 15 années qu'il passe dans cette retraite à Ligugé, Martin approfondit sa connaissance de l'Écriture sainte et commence son œuvre d'apostolat dans les campagnes. Il accomplit alors ses deux premiers miracles. Il ressuscite un catéchumène qui s'est joint à la petite communauté, puis un jeune esclave qui appartient à la domesticité d'un domaine voisin. C'est Sulpice Sévère, son biographe, qui écrit, et je cite, « Depuis ce temps-là, le nom du bienheureux a rayonné. Ce bienheureux qui passait déjà pour un saint aux yeux de tous, mais qui désormais passa aussi pour puissant et vraiment apostolique. Celui que tous tenaient déjà pour saint fut ainsi tenu pour un homme puissant et vraiment digne des apôtres. » Alors Martin avait été choisi par Dieu pour occuper un autre poste, et tout comme il avait été obligé de devenir soldat, il se trouve obligé de devenir évêque. Son renom était parvenu jusqu'à la ville de Tours, où l'évêque Litorius venait de mourir. Alors les habitants de Tours, les Tourangeaux, souhaitaient lui donner Martin pour successeur. Ils savaient son goût de la solitude. Ils sont pas bêtes. Ils emploient une certaine ruse pour parvenir à leur fin. L'un d'entre eux vient solliciter Martin de venir au chevet de sa femme malade, disait-il. Petit mensonge blanc, quoi. Et sur le chemin, Martin, pris dans une embuscade, est conduit à Tours, où la foule l'accueille en l'acclamant et le proclame évêque, malgré la réticence des évêques du voisinage, à se joindre pour collègue, dit Sulpice Sévère, un homme à la mine pitoyable, aux vêtements sales et aux cheveux en désordre. Ça rappelle certains itinérants qu'on voit, pour ne pas dire certains pains, qu'on méprise. Et voilà que ces gens-là méprisent Saint-Martin. Peut-être que quand nous méprisons des hommes ou des femmes à la mine pitoyable, aux vêtements sales et aux cheveux en désordre, nous méprisons peut-être des saints. Qui sait? Je ne vais pas me vanter, mais j'en ai adopté un, c'est devenu mon fils. Et je ne le regrette pas malgré tous les problèmes. C'est à Tours que grandit, moi, un de mes filleuls, François-Nicolas de Bonny de Lavergne. C'est quel nom, hein? François-Nicolas de Bonny. Petit garçon qui a 8 ans. La cérémonie de consécration, ou de sacre d'évêque, comme on disait, est commencée, et en l'absence du lecteur, empêché par la foule de parvenir jusqu'à l'autel, un des assistants se saisit du psautier et lit le premier verset venu. Voici ce verset. « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu t'es rendu gloire, à cause de tes ennemis, pour détruire l'ennemi et le défenseur. » Ça confond, par ce psaume, l'adversaire le plus acharné de Martin. Et à partir de ce moment-là, Saint-Martin remplit les fonctions épiscopales, dit le texte, plein d'autorité et de prestige, sans déserter pour autant sa profession ni ses vertus monastiques. Or, ce qui est merveilleux, c'est qu'il demeure humble de cœur, même s'il est évêque. Il est pauvre et simple, comme beaucoup, beaucoup de nos évêques aujourd'hui. Il installe son ermitage dans la solitude, donc, de Marmoutier, dont je vous ai parlé, à 3 kilomètres, hors des murs de la ville de Tours, en 372. Un ami de Tours, François Bray, m'a fait visiter Marmoutier. C'est des ruines, mais c'est très intéressant. Il faut avoir une clé spéciale pour entrer sur les lieux, pour éviter que les gens volent des sections des ruines. Il est bientôt rejoint, Saint-Martin, dans cette retraite de Marmoutier par de nombreux disciples, et très vite, ce monastère de Marmoutier se transforme en une abbaye. Il devient abbé, il s'impose à lui-même, comme aux moines, une règle de pauvreté, de mortification, de prière. Et c'est là que s'épanouit sa vie spirituelle, dans une grotte, ben oui, dans une grotte au creux d'un rocher, on peut la voir aujourd'hui. Ça lui sert de cellule. C'est là qu'il repousse, dit sa biographie, qui date de peu d'années après sa mort, il repousse les apparitions du diable. Il converse familièrement avec les saints et les anges. Enfin, c'est Sulpice Sévère qui raconte ça. Et cependant, s'il refuse le luxe, là, puis l'apparat d'un dignitaire de l'Église, d'un évêque, au point qu'un jour les soldats du fisc le prennent pour un vagabond dans ses vêtements misérables et le battent à tour de bras. Martin ne s'en formalise pas et il néglige pas pour autant ses charges épiscopales. Il accueille toujours les requêtes des pauvres. Saint Martin leur donne jusqu'à sa propre tunique dans le secret de la sacristie. Sa sollicitude va aussi aux captifs, à la libération de ces hommes. Il consacre tous les dons en argent de ses généreux fidèles. Il va un peu trop loin, et il n'hésite pas à intervenir pour obtenir même la grâce des prisonniers de droit commun puis des condamnés à mort. Il combat avec la même ardeur les erreurs, les superstitions dans les esprits de ses fidèles. Et l'abbaye de Marmoutier devient vite un grand centre d'évangélisation qui rayonne sur toute la Gaule. Alors Saint-Martin parcourt inlassablement les campagnes. Grâce à sa douceur et à sa persuasion, bien souvent, Martin réussit à convaincre les populations de détruire elles-mêmes leurs temples et leurs idoles. Il montre à maintes reprises cette foi solide en la croix de Jésus-Christ. Et on attribue à Martin bon nombre de miracles. J'en ai parlé tout à l'heure un peu, et on raconte que dans un bourg de Touraine, il détruit un sanctuaire fort ancien en relevant le défi des habitants, probablement adeptes de la déesse Cybèle. Il obtient que ceux-ci abattent eux-mêmes un pin sacré, en acceptant de le laisser attaché à l'endroit où personne ne doutait que l'arbre allait tomber. Alors, il se fait attacher là où l'arbre va tomber, donc il allait être écrasé. Et Martin trace alors le signe de la croix en direction de l'arbre et à la stupéfaction générale. Les lois de la pesanteur sont transformées par le signe du salut, comme dit le texte. Ça démontre ainsi la supériorité de son Dieu sur l'idole démoniaque. Et le pin s'abat du côté opposé, et cela confond les païens. Ailleurs, c'est la flamme d'un incendie qui obéit à sa volonté. Martin rase un temple, alors que Martin rase un temple très fréquenté, tout en épargnant une maison qui est près de l'édifice, et le feu n'atteint pas cette maison. Cependant, le plus souvent, ces victoires ne sont pas acquises de façon aussi étrange et foudroyante. Mais ce qu'il fait de plus remarquable, c'est la prédication. Ses effets de sa prédication sont peut-être moins immédiats, mais sans relâche, Saint Martin prêche. Il prêche aux gentils, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche le Verbe de Dieu, le Christ, avec une éloquence tout à fait inspirée, pour assurer ensuite la pénétration en profondeur de la nouvelle religion. Eh bien, Martin met au point une vraie technique d'occupation du terrain. Il ne détruit que pour reconstruire. Et là où il avait détruit des sanctuaires païens, bien, il construisait des églises, des ermitages. Il fonde ainsi de nombreuses paroisses qu'il met chaque fois sous le patronage d'un saint, dont il favorise le culte. Si Saint-Martin mérite donc le titre d'apôtre des Gaules, c'est parce qu'il a donné, dans les régions où il a travaillé, l'exemple de toutes les méthodes à employer. Et Saint-Martin, qui voyageait beaucoup, a laissé ainsi, au cours de ses courses apostoliques, de nombreux souvenirs, des chapelles, des églises, des fontaines, des rochers, des bois et même des arbres qui portent son nom. Savez-vous qu'en France, il y a 4000 églises Saint-Martin et 485 villages qui portent le nom de Saint-Martin? C'est aussi grâce à ses succès de guérisseur qui soulagent les souffrances du corps que Saint-Martin a conquis son pouvoir sur les armes. Et son biographe nous donne maints exemples de miracles qu'il a accomplis en faveur des malades, auprès desquels il se dépense avec un dévouement extraordinaire. Et je vous raconterai quelques-uns de ces miracles avant d'assister à sa mort. Je vous parlais donc de Saint-Martin, qui a fondé justement l'abbaye de Ligugé, qui y a vécu. Et Saint-Martin a accompli des miracles étonnants. Il ressuscite des morts, dit-on. Il a libéré des possédés, purifié des lépreux. Il redonne la vie à des aveugles. Son charisme de miracle est tel qu'il s'exerce même à distance. Un mourant a retrouvé la santé à sa seule approche. À distance, pas tellement loin. Puis un enfant est guéri de fièvre au seul contact d'une lettre adressée à son père par Saint-Martin. Ses prières suffisent, raconte-t-on, à écarter une épidémie qui, à des lieues de là, décimait les esclaves de l'ancien vicaire Liconcius. Même les animaux, même les éléments, obéissent au geste de la croix, au signe de croix de Saint-Martin. Ses guérisons suscitent de nombreuses conversions chez les païens. Ça réchauffe la foi, tiédit de nombreux chrétiens. Mais parfois, quelques fanatiques s'opposent à lui. L'idéal ascétique de Saint-Martin entraîne en outre beaucoup de vocations. Vous savez que les religieux qui ont le sens de leur vie religieuse attirent les vocations. Les religieux qui se laissent aller blessent et font mourir beaucoup de vocations. L'exemple de Saint-Martin est là. Il est avant tout quoi? Un homme de prière. Jamais, jamais il n'a laissé passer, nous raconte Sulpice Sévère, un moment sans se livrer à la prière ou s'appliquer à la lecture divine, la lectio divina. Et encore, même en lisant ou en faisant autre chose, il ne cessait de prier Dieu. Même en lisant ou en faisant autre chose, il ne cessait de prier Dieu. En toutes circonstances, Martin prie. Il est plein de confiance en Dieu. Prière, prière d'adoration, prière de contemplation, de supplication, prière d'intercession. Martin vit de la prière. Et dans la prière, il est étroitement uni à Dieu. Dans un cœur à cœur difficilement descriptible. Mais on sait ce que c'est. Il n'y a pas que les saints qui peuvent faire ça. Nous sommes tous appelés à être étroitement unis à Dieu dans la prière. Bien oui. Il suffit d'être attentif, de se mettre en présence de Dieu et d'être là, même si on est des vieux pécheurs endurcis, vous savez, la grâce de l'Esprit-Saint est là. Nous sommes tous appelés, il n'y a pas que les grands saints qui prient. Hein. Tout le monde prie, tout le monde peut prier. Il voit Dieu en tout, il le reconnaît à travers chacun des gens qu'il rencontre. Toute sa vie, son âme aspire à faire participer les pauvres au trésor de la foi catholique. D'un apôtre, d'un thaumaturge Saint-Martin. Il nous présente, à nous tous qui aspirons à une vie plus parfaite, n'est-ce pas? Il nous offre un beau modèle. Sa vieillesse est assombrie par l'ingratitude d'un prêtre qui s'appelait Brice, qui l'avait recueilli tout jeune à Marmoutier, près de Tours, et qui, furieux des reproches que lui avait valu son inconduite, passait son temps à l'injurier et à répandre des rumeurs. Martin pardonnait. Malgré son grand âge, il continue son activité apostolique, son activité pastorale d'évêque. C'est lors d'une tournée qu'il l'a conduit dans la paroisse de Cande pour rétablir la paix entre les prêtres qu'il sent ses forces l'abandonner. Il refuse tout autre lit qu'une couche de cendre et un cilice. Il prie jusqu'à son dernier souffle. Il se soumet entièrement à la volonté de Dieu et aussitôt la nouvelle se répand. Alors les gens de la région de Poitiers, de Ligugil, les Poitevins, et les gens de la région de Tours, les Tourangeaux, ce sont des noms québécois, ça, Poitevins, Tourangeaux, les Poitevins, j'en ai eu dans ma famille. Eh bien, il se dispute ses reliques. Va-t-il aller à Ligugé ou à Marmoutier? À Tours ou à Poitiers? Il est finalement transporté solennellement jusqu'à Tours, où il est enseveli le 11 novembre 397. La gloire, bien vite éclatante, a été comme une compensation des attaques qui avaient été dirigées contre Saint-Martin de son vivant. La masse du peuple, qui est frappée de l'action de Saint-Martin dans tout le pays, reste pleine de reconnaissance pour ce grand missionnaire. Une foule de moines et de vierges accourt à ses funérailles. Car tout ça a marqué la grande vitalité de l'institution qui est née à Ligugé, cette abbaye de Ligugé. Son successeur, d'ailleurs, bâtit un oratoire sur son tombeau, et le culte s'organise rapidement, c'est encouragé par des miracles. Le culte se fait, évidemment, en l'honneur de celui qui, dit-on, égalait les martyrs et les apôtres par ses travaux et ses vertus. Puis une basilique a remplacé l'oratoire qui était trop modeste. À l'époque mérovingienne, donc disons de 500 à 750 à peu près, c'est véritablement l'âge d'or du culte de Saint-Martin. Au temps de Saint-Grégoire de Tours, soit vers 575, il est l'unique patron de la France, oui, l'unique patron de nos ancêtres français à cette époque, pour nous qui venons de France. Son prestige concurrence presque celui du Christ. On n'y va pas de même ordre. Et savez-vous que le nom de Capet, qui est donné à la famille des Capétiens, les rois Capétiens, on dit qu'il y a quelque chose à ce sujet. La chape de Saint-Martin était un grand porte-bonheur dans les combats. Et les premiers Capétiens se sont honorés du titre d'abbé de Saint-Martin de Tours, si bien que un bénédictin, Dom Brial, s'est demandé si le nom de Capet ne viendrait pas de Capatus chapé, en somme, portant une chape, si vous voulez, allusion donc à la chape de Saint-Martin. Mais le grand évêque n'a pas réussi à garder pour toujours cette popularité. Tours est resté le centre de pèlerinage, mais non plus le seul. Et Martin est resté le grand saint de sa province, mais non plus le seul grand saint français, ou voire le grand saint d'Occident même, il était devenu ça. Les textes de sa messe qui lui étaient propres sont devenus communs aux confesseurs. C'est curieux, la messe des confesseurs s'est écrite pour Saint-Martin. Il y avait un hymne spécial, les spécialistes du grégorien se souviennent de ce bel hymne, « Iste confessor ». Cependant, il y a beaucoup de traces de son rayonnement ancien. D'abord, est-ce qu'il y a un nom de famille plus répandu en France que le nom de Martin? On le rencontre, d'ailleurs, dans toute l'Europe occidentale, sous différents Martini, en Italie, etc. C'est un nom qui est partout, partout, et ça vient de Saint-Martin. Pensons simplement à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, cette sainte de Lisieux, qui était une Martin, Thérèse Martin, dont je vous ai parlé le 1er octobre, toute mon émission lui était consacrée. Je vous rappelle, ces cassettes sont disponibles chez Marc Alexandre. Je vous donnerai le numéro de téléphone à la fin. Alors, il y a une vaste littérature qui s'est développée autour de Saint-Martin. Depuis la vie là, de Sulpice-Sévère, les lettres, les dialogues que Sulpice-Sévère a consacrés à son héros. C'est là un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Vous voyez, c'est encore édité. C'était légendaire, même lyrique au Moyen-Âge. Et cette littérature a fleuri en toutes sortes de choses. Des offices liturgiques, des sermons, des vies, des récits de miracles augmentés, embellis, des cantiques, des poèmes, même des mystères pour le théâtre au 15e siècle. Au 17e siècle, on voit poindre les ouvrages d'histoire critique. Et Saint-Martin a obsédé aussi les artistes. La scène d'Amiens, là, avec son pauvre auquel il donne la moitié de son manteau, a été et est toujours aussi populaire que bien des épisodes de l'Évangile. Le contraste entre ce pauvre puis le jeune officier sur son cheval, ce magnifique coupe d'épée là dans le manteau, tout cela, ça a enchanté les imaginations. Ça a créé, avec ce nouveau bon samaritain, une apparition à cheval, équestre, de la charité du Christ. Le souvenir de Saint-Martin se retrouverait encore dans tel proverbe, telle locution populaire qu'on retrouve partout en Europe. dans certaines coutumes, des provinces, des corporations, partout, pour souligner la charité. Mais ce qu'il faut retenir, j'y pense bien, c'est qu'il faut demander à notre vieux Saint-Martin de quoi nourrir notre vie intérieure. Notre vie intérieure. C'est un moine. C'est un homme de prière. Et de quoi soutenir aussi notre action. De se décider à vraiment faire quelque chose pour les pauvres. S'arracher de son siège. S'arracher de ce qui embarrasse notre cœur. Saint Martin est en somme un père du monachisme, car Saint Benoît l'a honoré. Je suis allé au Mont Cassin cet été, puis j'ai vu au Mont Cassin, il y a un oratoire, bien oui, qui lui est dédié, conjointement avec Saint Jean-Baptiste, qui est un autre modèle d'ascétisme. Saint Jean-Baptiste, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Belle émission sur Saint Jean-Baptiste. Beaucoup de gens ont beaucoup aimé ça. Et je ne veux pas me vanter en disant ça, c'est parce que je m'inspire de beaucoup de choses. Hein. C'est pas moi qui parle au fond. C'est des tas de livres, des tas d'auteurs, des tas de textes, c'est l'Évangile. Je n'y suis pas pour grand-chose finalement. C'est l'héritage de l'Église que je prononce, qui sort de ma bouche. Les traits essentiels de Saint Martin sont évidents. C'est un ascète, un apôtre et par-dessus tout un homme de prière. Saint Martin, même quand il semble faire autre chose, était toujours en prière, je vous l'ai dit. C'est un ascète. Il a mortifié sans pitié son corps. S'est acharné contre tout amour propre. Il a accepté avec sérénité les difficultés, les affronts. Il était humble, il était patient, il était pauvre. Il était détaché de toutes les vanités de ce monde. Les vanités de ce monde. Vanité des vanités. Tout n'est que vanité. C'est la Bible qui le dit, puis on l'oublie trop vite. Et comme évêque, il s'est cramponné à son idéal monastique. C'est un vrai disciple de Dieu, du Dieu de la croix. C'est un apôtre, il a une foi ardente, impérieuse, qui le pousse à travers les campagnes. Et sa récompense est venue. Le miracle, parfois. Mais nulle crédulité, hein, il rejette, c'est raconté, il rejette les fausses reliques, il n'aime pas ça. Il connaît la Bible, il connaît les Écritures, moins en spéculatif et en écrivain, comme son maître Saint-Hilaire, qu'en homme d'action, pour éclairer et diriger avec beaucoup de sens pratique. C'est un homme d'Église, il maintient avec dignité son indépendance devant César, sans intransigeance excessive, mais surtout, il a la vertu incomparable, qui est la charité et la bonté. Il dit devant une brebis tondue, « Elle a accompli le précepte de l'Évangile, elle avait deux tuniques, elle en a donné une à celui qui n'en avait pas. » C'est aussi ce que vous devez faire. C'est pas bête, hein? Alors lui-même, étant évêque, sur le point de célébrer la messe, il se dépouille rapidement pour se vêtir pour vêtir un mendiant. Et c'était le geste d'Amiens, plus total encore. Puis envers ses frères humains, bien, il évite toute malveillance et rancune, puis il condamne les thèses hérétiques. Oui, mais quel effort il fait pour sauver les égarés, et ses miracles, comme ceux du Christ, sont des miracles de charité, hein. Il passe en faisant le bien, dévoué corps et âme à son peuple. Alors demandons-lui d'intercéder pour le Québec, pays français d'Amérique, héritier de la France. Cette France qu'il a conquise au Christ, et de nous inspirer des actes de pénitence puis de charité, sans lesquels on n'est pas vraiment chrétien. Or, il y a une découverte, assez fortuite d'ailleurs, qui a été suivie de fouilles systématiques. C'était entrepris par les monuments historiques de France, et ça a mis au jour à Ligugé des ruines antiques dans un terrain voisin de l'église Renaissance, et juste à côté. Deux édifices se sont succédés sur le même site, et le premier, c'est sûrement une petite villa gallo-romaine du 2e ou 3e siècle. Elle a dû disparaître en 275, lors de la première invasion. Et là, le second monument, c'est assez énigmatique. C'est une immense abside, quasi semi-circulaire, de 32 mètres de diamètre. C'est long, ça, ça fait 100 pieds. Fermée par un mur frontal percé de plusieurs portes. Un couloir intérieur qui suit toutes les parois autour d'un aire centrale qui est surélevée. Il y a une ligne de colonnes qui ceinture extérieurement l'édifice. La construction recouvre les restes de la villa, alors on doit la dater du 4e siècle, et la dévastation du milieu du 5e. Or, des puits funéraires païens ont été creusés peu après, et le plan de ce monument est unique en France. Les villas connues n'offrent rien de comparable en France. Et ce plan est analogue au mausolée antique. Alors, faut-il voir ici, on peut se poser la question, un mausolée de grande famille, le seul de Gaulle, ou seul de la France, bien plutôt un martyrium, c'est-à-dire une église votive dédiée justement à notre Saint-Martin, puisque les mausolées ont été le modèle des édifices paléo-chrétiens, les édifices votifs. Alors, seul à Ligugé, le souvenir de Saint-Martin est assez grand, semble-t-il, pour justifier une telle ampleur. Quand on va dans des monastères, on y trouve des choses extraordinaires. Et je vous recommande d'aller dans un monastère dans les Pyrénées-Orientales, c'est Saint-Martin, justement, du Canigou. L'un des plus beaux, je vous assure, l'un des plus beaux monastères du monde, pas par sa richesse, mais par son architecture, je dirais, évangélique. C'est un prie-Dieu, comme on peut lire dans une revue, entre ciel et terre, où Jésus hostie est présent. Ce monastère de Saint-Martin du Canigou a été fondé en l'an 1000 par le comte Guifrène, qui après avoir eu 7 enfants issus de 2 mariages est devenu moine à l'abbaye de Saint-Martin. L'abbaye a d'une certaine manière retrouvé son charisme, puisque depuis le mois de juin 1988, ça fait pas longtemps, à la demande du diocèse de Perpignan, bande de l'évêque, la communauté mixte très connue des Béatitudes, qu'on appelait autrefois du lion de Judas et de l'agneau immolé, donc la communauté mixte des Béatitudes est venue y prêter main forte au père de Chabannes, je crois que c'est un bénédictin d'Ancalcate. Depuis 40 ans, toujours debout au cœur du Canigou, disait-il, pour en remonter les ruines et rendre ces bâtiments à leur belle vocation de louange divine. J'assure, c'est superbe ce monastère. C'est très simple, c'est très beau. Alors, comment convertir un lieu touristique en haut lieu spirituel? C'est un problème qu'a rencontré sœur Hélène, berger de la communauté. Si je ne m'abuse, c'est la fille de Marguerite Castillon du Perron, l'auteur de La vie de Charles de Foucault. Alors, comment expérimenter la présence vivante et la puissante intercession de Saint-Martin, qui était l'apôtre des Gaules, comme on vient de le voir, dans un temps de paganisme et d'hérésie, et c'est le même temps de paganisme et d'hérésie dans lequel nous sommes? Alors, sœur Hélène, la bergère, on dirait, nous, la prieure ou l'abbesse, eux disent la bergère, c'est très beau. Elle déclare que l'intuition que nous avions reçue dans la prière, c'était que la gloire de Dieu rayonne. Et c'est ce qui nous a conduit au choix d'introduire les touristes dans l'esprit du monastère, écoutez bien, et de faire les visites en silence, afin que ce prie-Dieu, joyau de l'art roman catalan le plus pur, les touche par sa beauté, faisant vibrer leurs fibres artistiques, ouvrant ainsi un chemin vers Dieu, même sans recherche consciente de leur part, chemin encore à peine exploité, ouvrant sur de vastes horizons. Par le moyen d'une vidéo, nous leur présentons l'abbaye, puis nous les invitons à entrer dans le lieu habité par la prière, et à faire l'expérience de la présence de Dieu dans le silence. Beaucoup de témoignages confirment que les cœurs sont touchés. Combien de touristes passent par année? De 30 à 50 000 par an. Imaginez. Or, sœur Hélène dit que nous sommes en plein cœur du monde actuel, de plus en plus déchristianisés. On ne peut pas dire qu'ils soient athées, mais agnostiques. Et n'est-ce pas là une très grande pauvreté, pauvreté, c'est pour ça que j'en parle. On parle de la pauvreté des gens qui n'ont rien à se mettre sur le dos, mais pensons à la pauvreté de ceux qui n'ont rien à se mettre dans l'âme, dans leur cœur, dans leur vie. N'est-ce pas là, dit sœur Hélène, une très grande pauvreté de notre humanité, qui a perdu le sens même de sa vie, porte ouverte à tous les désespoirs, tous les égarements, pauvreté d'autant plus profonde qu'elle est cachée. Cependant, les cœurs sont préparés à cette rencontre, et ce qui me frappe, c'est que la plupart de ces gens sont en recherche. Or, elle a le sentiment que tout ça devient un révélateur de la soif du monde moderne, un vrai monastère priant. Elle dit certaines questions prouvent une grande détresse, une grande soif de retrouver l'essentiel. Les saints patrons de l'abbaye sont très bien choisis pour vivre cette vocation que le Seigneur nous donne. Le premier, Saint Martin, premier évangélisateur de la Gaule, avait une vocation monastique, mais au cœur un tel zèle à propager l'Évangile qu'il vivait dans son monastère quelques jours, puis repartait pour prêcher. Il fut le fondateur des paroisses en France. On retrouve bien les deux aspects de la vocation, vie contemplative et soif d'annoncer le Seigneur. Et notre deuxième patron, c'est Saint Michel Archange. Le Seigneur nous l'a donné car il sait bien que nous avons à vivre un dur combat spirituel à cause des conversions qui ont lieu ici. Saint Michel qui a précipité les anges mauvais aux enfers. La troisième patrice et patronne, c'est la Sainte Vierge. Et beaucoup de frères et sœurs ont reçu de façon spontanée la grâce du rosaire. C'est elle qui maintient la flamme à notre cœur et qui nous enseigne l'accueil. Et cette sœur ajoute à la suite de Martin, amoureux de Dieu et donc des hommes, l'évangélisation de l'an 2000 sera celle de l'amour ou ne sera pas. L'évangélisation de l'an 2000 sera celle de l'amour ou ne sera pas. Les gens qui montent ici ont la tête pleine d'idées, de théories, de philosophies, de tout ça. Ce ne sont pas de nouvelles paroles qui les convertiront. Il n'y a qu'une possibilité, qu'une solution. Rencontrer l'amour. Vivre une expérience du cœur. Et si leur cœur est ouvert, ils pourront rencontrer Dieu. Mais tout ce que nous pouvons faire, tout en les portant dans la prière, c'est de témoigner de la tendresse infinie de Dieu, souvent silencieusement. Puisse la gloire de Dieu rayonner de plus en plus sur cette montagne du Canigou, ensemencée de 800 ans de prière, afin que les foules soient désaltérées aux sources vives du salut. On peut aller dans nos monastères tout neufs, tout récents, pour puiser la même chose. Et si on a la chance d'aller en France, allons dans un monastère, passons-y plusieurs jours. Ici aussi, pourquoi pas, pour rencontrer Dieu plus intimement.